Donc, merci à tous d'être venus aussi nombreux, ça fait très plaisir. Moi, je vais vous faire une courte intervention pour vous partager l'évolution de ma perception sur l'éolien. Donc, je vais vous demander votre indulgence, je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, je vais devoir lire ma feuille, donc merci d'avance. Donc, depuis toujours, j'ai été touché par la beauté des paysages ardéchois où j'ai vécu une partie de mon enfance. Et c'est notamment à travers ce rapport au paysage que j'ai eu un lien fort à la nature et que les questions liées à l'écologie se sont imposées dans ma vie. J'ai toujours été inquiet des risques liés à l'industrie nucléaire et les conséquences de l'utilisation des combustibles fossiles pour l'environnement. Et du coup, j'ai toujours été plutôt favorable aux énergies renouvelables. D'ailleurs, à ce titre, dès sa création, je suis devenu client d'Enercop, qui était un fournisseur d'électricité verte, chez qui vous êtes peut-être aussi client. Il y a quelques mois de ça, quand j'ai appris quand se sont confirmées les rumeurs de parc éolien sur le cerf de Gruas, j'ai voulu me renseigner pour en savoir plus sur cette énergie. Et c'est là que j'ai découvert que les projets qui étaient en cours ne correspondaient pas exactement à l'idée que je me faisais de l'éolien ni de l'écologie. Alors certes, l'idée de produire de l'électricité à partir du vent est séduisante. Ça semble une bonne idée, puisque le vent, c'est une ressource abondante et qu'elle ne comporte pas les inconvénients du nucléaire et des énergies fossiles. Cependant, c'est une ressource qui est loin d'être miraculeuse. En fait, ça s'explique parce que c'est une source d'énergie qui est très peu dense. Donc, de fait, ça nécessite des installations de très, très grande taille pour pouvoir l'exploiter, avec aujourd'hui des éoliennes qui sont à plus de 150 mètres de haut, comme c'est le cas dans les projets qui sont en cours. Et pour produire, malgré la taille des machines, pour produire une quantité significative d'énergie, il faut multiplier les parcs et en mettre dans la plupart des espaces disponibles, en l'occurrence souvent les derniers territoires qui sont préservés, puisque c'est les zones en altitude où il n'y a pas eu d'industrialisation. Le coût de l'énergie éolienne reste nettement supérieur à celui des autres sources d'électricité. Du coup, on est obligé de subventionner l'électricité qui est issue des éoliennes pour qu'elle soit rentable et qu'elle puisse être vendue sur le marché. Et là, c'est l'État qui assure ce financement. Et ce financement est directement pris sur un budget qui pourrait aussi assurer d'autres éléments de la transition énergétique, par exemple les économies d'énergie, l'isolation, etc. Donc voilà, on a d'un côté, certes, des avantages par rapport au nucléaire et aux énergies fossiles, mais aussi des inconvénients qui sont non négligeables. C'est le cas de tout type d'énergie, toute production énergétique a des impacts environnementaux. Donc, pour évaluer un projet énergétique, il faut faire le rapport entre les coûts et les bénéfices tels qu'on vient de les évoquer. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est ces coûts et ces bénéfices, qui paye les coûts et qui récolte les bénéfices? Donc, les coûts écologiques, c'est ce qui vient d'être évoqué, l'impact sur l'environnement et sur les zones d'habitation. C'est principalement les habitants des zones concernées par les projets qui les payent, et aussi tous ceux qui ont intérêt à la préservation de l'environnement et des quelques restes de nature sauvage ou préservée qu'on a encore aujourd'hui. Les coûts économiques, eux, ils sont portés par l'ensemble des citoyens, puisque c'est l'État qui va financer la faible compétitivité des parcs éoliens avec nos impôts, donc tous ici, mais beaucoup plus largement, c'est nous qui allons assumer le coût de cette énergie. Alors maintenant, on se pose la question, mais qui récolte les bénéfices? C'est quoi les bénéfices? Tout simplement, c'est l'argent qui vient de la vente de l'électricité que produisent ces parcs éoliens. On pourrait imaginer que ces parcs éoliens soient développés dans le cadre d'un service public, comme ça a été fait dans d'autres secteurs de l'énergie. Donc, dans ce cas-là, c'est la collectivité qui investirait sur les infrastructures et c'est la collectivité qui récupérerait le profit de la vente. Avec ces profits, la collectivité, nous, nous pourrions avoir des ressources pour jouer sur les autres plans de la transition énergétique, les économies d'énergie, la rénovation de l'habitat, les transports collectifs, le train, etc. Si c'était le modèle qui était celui, si ces projets qu'il y a actuellement sur le CER de Gruas étaient faits dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'un service public de l'électricité dont, certes, nous assumons les coûts, mais nous profitons des bénéfices, personnellement, je pense que c'est une question à étudier de façon très, 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 très fine et auquel il est difficile d'apporter une réponse rapide. Parce que voilà, il y a des enjeux qui sont forts dans la transition énergétique, il y a des impacts, c'est une balance. Mais ce qui se passe actuellement sur le CER de Gruas, c'est des projets d'un tout autre nature. C'est des projets qui sont portés par des multinationales, qui, elles, n'ont pas d'objectif en termes de transition écologique, mais la réalisation de profits pour leurs actionnaires. C'est comme ça que fonctionne le monde et les entreprises. Hein. Globalement, il y a des investisseurs. Il faut qu'ils aient des retours sur investissement. C'est ça qui compte. Du coup, on se retrouve dans une situation où les coûts vont être portés par nous, les habitants du territoire qui seront impactés, et par l'ensemble de la collectivité, par l'État qui va devoir mettre la main à la poche. Alors que les bénéfices vont aller entièrement aux actionnaires de ces entreprises multinationales qui développent ces projets. Toutefois, à noter, il y aura des petites miettes qui seront distribuées aux communes qui accepteront d'accueillir ces projets éoliens et aux propriétaires qui accepteront aussi d'héberger ces installations sur leurs terres. À noter que pour ceux que j'ai rencontrés, la plupart des élus et des propriétaires qui sont favorables à ces projets le sont de bonne foi. Je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours interrogé le modèle économique et ne se sentent pas forcément non plus de porter des projets, de porter localement des projets. Et du coup, là, il s'agit quand même globalement de gens de bonne volonté qui pensent faire un acte pour la transition écologique en confiant ces terres aux investisseurs. Donc, j'ai un peu lâché ma feuille. Donc, globalement, c'est ce qui va se passer, c'est que ces multinationales s'approprient les terres pour des très longs termes, puisque les baux qui sont signés engagent pour au moins 30 ans, c'est des baux renouvelables, donc ces multinationales vont se retrouver finalement à avoir les commandes sur de vastes espaces du territoire sur un très très long terme. Et donc vont se faire financer en grande partie leur profit par la collectivité, par les sous qui viennent de nos impôts. Le plus ironique là-dedans, c'est qu'au final, ils vont produire de l'électricité qu'ils vont nous vendre. Donc malgré qu'ils profitent de la ressource qui nous appartient et qu'elle soit en partie financée par nous, derrière, on paiera en plus la facture de l'électricité qu'on leur achète. Du coup, il semble que, en tout cas, au stade où j'en suis de ma réflexion, il me semble qu'il n'y a pas de raison de défendre ce modèle où finalement on va tous payer collectivement les coûts de cette production en n'en tirant aucun bénéfice. On va sacrifier les ressources budgétaires qui pourraient servir à gérer la transition énergétique pour enrichir des investisseurs et des fonds de pension pour qui l'écologie n'est qu'un argument commercial. On livre les ressources pour des décennies, des ressources en vent qui sont l'exemple même d'un bien commun. Il aurait sûrement certes à sembler absurde à beaucoup que le vent puisse, ou ce qu'il produit puisse appartenir à quelqu'un. Et si un jour la situation énergétique, c'est-à-dire imaginons que dans le futur, pénurie d'énergie fossile, l'absence de nouvelles solutions plus pertinentes, on devait se résoudre à sacrifier une partie de nos territoires sauvages pour produire de l'électricité au moyen des éoliennes, ce jour-là, ça ne sera plus possible parce que nous aurons déjà donné la gestion de ces territoires à ces multinationales. Donc voilà pourquoi, malgré mes interrogations encore à ce stade sur la pertinence que pourrait avoir un service public de l'électricité qui développerait de l'éolien en accord avec les territoires et les habitants, j'ai maintenant aucun doute sur le fait que les projets portés par ces deux multinationales, VSB et EURES, sur la zone du cerf de Gruas, n'ont pas leur place ici, et pourquoi je suis décidé à faire mon maximum pour qu'ils ne se fassent pas, et que j'espère que vous serez nombreux à être dans ce cas.